Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Flora Missy.
Bonjour à tous et bon réveil sur RMC. Il est 9h05, les grandes gueules du sport comme tous les week-ends jusqu'à midi. Vous nous écoutez peut-être dans la voiture, depuis la plage ou même en pleine rando en montagne. Bonnes vacances à vous tous si vous nous écoutez pendant cet été très ensoleillé, très chaud. Les GG, elles, sont au rendez-vous tout l'été justement sur RMC, l'équipe du jour pour m'accompagner pendant 3 heures. Que ferais-je si je n'avais pas toujours mon bras droit avec moi, l'homme sur qui je me repose tout l'été sur RMC? Et l'avantage, c'est qu'il n'a aucun mal à me porter. Je veux bien sûr parler de Frédéric Weiss. Salut Fred.
Bonjour Flora, bonjour à tous.
Qui est vraiment à ma droite.
En plus, je suis vraiment à droite. Et tu as vu, je suis apaisé, j'ai un discours posé, calme.
Tu reviens
serein.
D'une petite semaine de vacances. Voilà, on va voir si ça va durer longtemps, je suis pas certain.
Je soigne ma rage.
Elle est à l'aise sur absolument toutes les surfaces, en revers comme en coup droit. Comptez sur elle pour avoir des avis bien tranchés. Sarah Pitkowski est dans les grandes gueules du sport ce matin. Salut Sarah.
Salut Flora, salut à tous.
Bonjour
Monsieur Weiss.
Bonjour.
Tout va bien Sarah? T'as passé un bel été?
Écoute, ouais, bah tu vois, je suis très bronzé.
Si, un petit peu.
Ah ouais,
tu as le teint pâlé, comme on dit.
Ouais, voilà. Bah, j'ai du mal à monter en couleur.
Donc on commence l'émission en disant des mensonges.
Elle a le teint allé.
Je suis un peu orangé quand même.
Oui, orangé, c'est pas super. Hein. C'est pas un compliment.
Oui, bah, j'essaie de rester dans les teintes comme je peux.
Tu vois, comme la bonne humeur de Fred Weiss ne dure jamais très longtemps.
Ouais. Faut toujours lire les compliments pour s'asseoir dessus.
Ah bah non, faut pas abuser, ça quand même. Et puis enfin, il trépigne d'impatience à l'idée de revoir sa chère Ligue 1 revenir. Et en attendant, il consomme le sport tous les week-ends comme le passionné de la première heure qu'il est. Pascal Duprat est avec nous. Salut Pascal.
Bonjour Flora, bonjour Sarah, bonjour Fred, salut
Monsieur
à toutes
Duprat.
Et à
bonjour,
tous.
Comment bonjour. Ça va mon Pascal?
Il suit pas
ça
que
va
la
très
Ligue.
Bien, félicitations pour ton teint allé.
Oui, je te remercie.
Ce qui est vrai, nous ne mentons pas aux gens le matin. Dans
non mais
rigoles,
vous avez vu quand même qu'il dit un truc, un compliment et il rit juste après. Parce que lui-même ne croit pas à ce qu'il dit. C'est magnifique.
Bah, franchement, tu veux pas que je pleure, non? Je fais un compliment à Sarah.
Oui, mais je voudrais que je pleure. On sent que tu commences
juste,
à être dans les débats.
C'est pour aller à ton encontre.
Par contre, on sent bien que t'es apaisé, toi, c'est vrai. Tu l'as bien fait de le dire.
Je t'avais dit, ça dure jamais très longtemps. On va vous accompagner jusqu'à midi. On vous attend aussi au 32-16 et sur WhatsApp au 06 12 424 424. On attend vos petits messages pour participer tout au long de l'émission avec nous. Et on vous attend aussi sur X pour voter pour le sondage du jour avec l'arrivée de Thomas Ramos au Racing 92 en 2027. Croyez-vous à une redistribution des cartes en top 14? C'est le débat qui vous attend dans le ring des GG tout à l'heure. Mais d'abord, on s'intéressera à la saison de l'OM dans la une. Marseille est obligé de continuer à dégraisser, mais jusqu'à quand? Est-ce que ce dégraissage massif est alarmant selon vous? Supporters marseillais, on vous attend évidemment au 32-16. La punchline des GG aujourd'hui est signée Pauline Ferrand-Prévot. Je ne suis pas au niveau, tout simplement, donc il n'y a pas de regret à avoir. La Française tenante du titre, mais larguée au classement général du Tour de France Femmes, qu'elle ne gagnera pas cette année. Un vestiaire des GG de circonstance aujourd'hui, puisqu'on verra comment nos GG ont géré les fortes chaleurs en compétition pendant la carrière. Et puis sur le buzzer, on parlera tennis en l'absence d'Alcaraz et Sinner et la méforme des têtes d'affiche. Le circuit masculin est-il toujours aussi attractif? Et puis tout ce week-end dans les grandes gueules du sport, à l'occasion du Tour de France Femmes, Basic Fit, partenaire fitness officiel avec Zwift, vous offre un an d'abonnement pour vous entraîner 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 dans plus de 300 clubs en France. Pour remporter cet abonnement, vous envoyez sport, SPORT au 7 32 16. Allez, on démarre ces grandes gueules du sport par un club qui fait toujours beaucoup parler, évidemment l'Olympique de Marseille. Alors que la saison de Ligue 1 reprend le 21 août prochain, l'effectif marseillais est encore très loin d'être figé. Le dégraissage intensif continue à l'OM pour rentrer dans les clous financiers.
La une des grandes gueules du sport.
L'OM qui commence à dégraisser, l'Argentin Facundo Medina va quitter l'OM.
Les premiers chineurs sont intraitables.
Bonne offre. J'aime pas louper la première vente.
J'achète 30 Mason Greenwood qui a pris la direction du Fenerbahçe.
Oh putain, je perds je crois.
Ou encore Pierre-Emerick Aubameyang qui a posé ses valises à La Corogne.
40 balles.
Podium top 4, non, mais j'ai parlé d'Europe.
Il en demande 1 400 €.
C'est le prix?
Ben oui.
On va faire du mieux qu'on peut, mais je crois que Marseille doit être européen, quelle que soit sa situation financière.
Didier à droite, une vingtaine de braderies de Lille au compteur.
Je vous fais 20 balles.
Vous avez des bons joueurs, vous avez envie de les garder.
Didier est un grand amateur de verrerie.
Vous me ferez 40 €.
Mais non, c'est pas drôle 40.
Vous êtes entraîneur, vous avez plus de garanties à garder des bons joueurs et avoir aussi une certaine ossature.
30 euros, chef.
Une première vente sans même négocier. La journée commence bien.
Rouli vers City, ça serait une grosse perte pour l'OM quand même, ça.
L'OM toujours surveillé de près par la DNCG qui doit avant tout vendre et alléger sa masse salariale avant de pouvoir recruter. Le temps est évidemment compté alors que la saison reprend dans 15 jours précisément et le mercato se termine à la fin du mois. On va faire le point avec Valentin Jamin. Salut Valentin.
Salut les GG, salut à toutes et à tous.
L'objectif évidemment Valentin est d'alléger un peu cet effectif alors qu'il y a encore du chemin pour,
oui,
pour y arriver.
6 départs pour le moment mais seulement 2 ventes pour l'OM, donc Greenwood et Aubameyang. L'OM va toucher un peu plus de 30 millions d'euros pour ces deux-là en attendant les ventes annoncées de Facundo Medina, Geronimo Rulli, voire Naïef Aguerd. En résumé, tout le monde ou presque est sur le marché à l'OM qui veut récupérer environ 80 millions d'euros d'ici la fin de la saison prochaine. L'actionnaire a aussi décidé de fermer le robinet, de baisser les salaires et les joueurs l'ont tous compris à l'image de l'avant-centre Amine Gouiri, invité hier de l'Afterfoot.
Comme vous savez, surtout dans le foot, on ne sait pas ce qui peut se passer, surtout dans cette situation. J'ai entendu dire que la porte a été ouverte pour tout le monde, mais que ce soit clair ou pas, vous savez, dans une saison, on peut être amené à rester et au final, on part et vice-versa. Donc, pour l'instant, je suis là. Je me concentre sur ma préparation et on verra par la suite.
Donc, situation quand même particulière pour les joueurs, mais la non-qualif en Ligue des Champions la saison dernière a mis les finances dans le rouge. La nouvelle équipe travaille autour du directeur sportif Grégory Lorenzi. Et hier, en stage aux Pays-Bas, l'entraîneur Bruno Genesio a détaillé un petit peu son état d'esprit sur ce mercato.
Je ne vous cache pas que nous aussi, on a envie de voir de nouveaux joueurs arriver. On a aussi envie de conserver certains joueurs parce qu'on parle beaucoup de mercato, mais il y a aussi un groupe avec de très très bons joueurs qu'on a envie de conserver. Après, il y a la réalité aujourd'hui économique. Mais forcément, oui, on est tous un petit peu impatients d'avoir un effectif qui se construit petit à petit pour ce premier match de championnat.
Peut-être qu'il devra aussi lancer des jeunes, il l'a fait en préparation, mais Genesio prévient, il faut qu'il soit prêt, il faut être prudent, ne pas faire des fausses promesses, hein, c'est pas toujours la solution, mais le point positif qu'il a relevé quand même, le technicien, c'est l'état d'esprit de son groupe.
J'ai trouvé un groupe très réceptif, très travailleur, très engagé. Je suis très très agréablement surpris par l'investissement de tous, l'ambiance générale et surtout l'ambiance de travail sur le terrain, l'engagement qui est mis tous les jours. Personne rechigne, tout le monde est focus malgré évidemment tout ce qui se passe et tout ce qui peut se dire. Mais en tout cas, ça se ressent absolument pas sur le terrain.
Demain, il y a un match amical face à l'Athletic Bilbao et donc ce sont les deux clubs du top 5 européen à avoir recruté 0 joueur pour le moment.
Merci beaucoup Valentin, tu restes évidemment avec nous. Les GG, je vous pose donc cette question ce matin. Le dégraissage de l'OM se poursuit, est-ce alarmant pour la saison qui arrive ? Sarah ?
Moi je me positionne pour le non.
Très bien, Fred ?
Non. Elle a mis 3 minutes pour dire moi je me positionne en réfléchissant que peut-être il est possible que je choisisse le non. Non.
Il est très en forme, Sarah.
Je prépare mes arguments et j'essaie d'avoir un français un peu évolué. Voilà.
Non suffisait.
Voilà. Très bien.
Pascal, en plus, on est d'accord.
C'est dingue, ça. Frédéric, tu te calmes. Pascal.
Oui, tout court.
Mais merci. Merci d'être courti, Pascal. T'as compris que sinon tu te fais réprimander par la police Weiss qui est à côté de moi. On attend aussi votre avis. Vous qui nous écoutez ce matin, notamment les supporters marseillais, évidemment, est-ce que vous êtes un petit peu inquiet pour la saison qui arrive? Le 32-16 est ouvert. Vos messages aussi sur le WhatsApp d'RMC au 06-12-424-424. Valentin a énuméré un petit peu tout ça. Fred, t'es le seul à pas être trop inquiet finalement. Pourquoi?
Je suis pas inquiet parce que moi j'aime bien les cures de sobriété. J'ai l'impression que chaque fois qu'on a eu beaucoup d'argent dépensé du côté de Marseille, on l'a pas toujours très bien dépensé.
Enfin, là, il y en a zéro pour l'instant.
Oui, mais je suis d'accord. Mais c'est normal de vendre. Quand tu as des problèmes financiers, c'est normal que tu vendes avant que tu n'achètes. Ça paraît pas complètement
après,
logique.
On va rappeler, et Valentin le confirmera, il va falloir vendre une certaine somme avant de pouvoir recruter aussi. Et puis c'est surtout la masse salariale qui est encadrée.
La masse salariale encadrée par la DNCG. Et pour résumer un petit peu les choses, l'OM s'est mis d'accord avec l'instance sur un budget à respecter. Donc une enveloppe, en fait, entre guillemets. Mais la priorité de l'actionnaire aussi, c'est d'arrêter de remettre au pot et donc d'alléger tout ça avant de recruter.
J'ai vu que Marc avait remis au pot 120 millions.
C'est pour combler des pertes.
Oui, je suis d'accord. Sauf qu'il l'a fait déjà une fois pour combler des pertes. Donc j'imagine
depuis le début de l'année, lui
on a peut-être un petit peu marre de dépenser pour rien, pour pas grand-chose. Donc à un moment, se dire qu'on va reconstruire avec Genesio, qui est quand même un très bon entraîneur, avec Lorenzi, qui a montré des choses quand même avec peu de moyens, capable de faire plein de choses super intéressantes, à avec un centre de formation qui est quand même plutôt très correct du côté de Marseille. Alors oui, si on a les attentes de faire la Ligue des Champions,
c'est ça, ça dépend les ambitions.
Oui, mais ce que je veux dire, c'est que se dire un moment, on repart des bases, on reconstruit sereinement, on a un coach qui est capable de faire ça, on a un directeur sportif qui va l'accompagner et on va travailler pour enfin avoir de la sérénité dans ce club. Ben moi, je suis plutôt pour.
Ah, on verra combien de temps dure la sérénité si jamais les résultats.
Flora, on a passé l'été quasiment ensemble et on s'est quand même rendu compte que les supporters marseillais étaient plutôt favorables à ça.
On les entendra, évidemment.
En tous les cas, pour l'instant, les
ils sont pas résignés, les supporters marseillais, plutôt que favorables.
Résignés,
ils n'ont pas le choix.
Au final, ils n'ont pas le choix.
Oui.
Parce que qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux inventer des sous que tu n'as pas? Non. Donc, autant essayer de construire une identité, une vraie envie. Je trouve que le cas Greenwood est hyper intéressant. Lui, il voulait partir absolument. Fais-le partir. En
fait, surtout que l'OM devait vendre absolument.
Il vaut mieux partir, en fait.
Pascal.
Mais en fait, il y a une donnée que Fred oublie. Alors, je vais l'excuser parce qu'il est plutôt basket. Dans 23 jours, le mercato ferme. C'est-à-dire que tu as beau avoir un super directeur sportif, tu as beau avoir un nom, un club qui est attractif. Donc, dans 23 jours, le 1er septembre, tu ne peux plus acheter. Et à partir de là, ça complique quand même la donne, puisque toi, quand t'es à l'OM, aujourd'hui, tu dois vendre. Et tu dois vendre les bijoux de famille, parce que tu vends tout le monde, en fait. Tout le monde est transférable. Donc, tant que cette donne n'est pas réalisée, eh bien, tu n'achètes pas. Alors, bien sûr, tu prends des contacts, bien sûr, certainement des joueurs qui sont ciblés, parce que les personnes que tu évoquais tout à l'heure, et notamment Bruno Genesio et Lorenzi, font du très bon travail, ils sont rompus à l'exercice, mais cela dit, ça limite en temps. J'entends Bruno qui dit qu'il y a une bonne ambiance à l'entraînement et surtout une bonne ambiance de travail. Encore heureux, c'est le début de saison et chacun se prépare individuellement. Encore plus quand tu sais que t'es sur la liste des transferts. Donc tous les joueurs sont dans une superbe ambiance, sont animés des meilleures intentions. Parce qu'en fait, l'OM, pour chacun des joueurs, c'est un peu entre parenthèses. On verra plus tard si j'y suis. D'abord, je me prépare au cas dans le cas où je serais transféré.
On essaie de se montrer aussi chacun.
Voilà. Donc tout ceci fait que moi je suis alarmé pour l'OM parce que certes l'OM a une formation qui depuis quelques années est meilleure qu'elle l'était précédemment. C'était ancestral, l'OM ne sortait pas de gamins, aujourd'hui ils en sortent quelques-uns, mais cela dit c'est pas suffisant pour l'Olympique de Marseille. Vous devez tous en convenir. Si tu perds tous les joueurs, comment tu vas faire ensuite? Dis-moi comment tu vas faire. Pure d'austérité bénéfique pour un projet, un style. L'Olympique de Marseille, c'est une institution qui peut pas se permettre d'être dans le ventre mou du championnat.
Moi, j'ai l'impression que t'as pas beaucoup de mémoire, ou en tout cas pas beaucoup plus que moi. Il faut se rappeler de la saison dernière. Pascal, rappelle-toi ce qui s'est passé après le premier match de la saison. Rabiot est parti. On a recruté très rapidement et plutôt pas trop mal du côté de. En tout cas, sur le papier, c'était plutôt intéressant. Donc, je vois pas pourquoi ce serait pas le cas de la même façon cette année, en fait.
T'as pas le même budget.
Mais non, mais c'est surtout que encore une fois. T'as un très bon coach et t'as un très bon directeur sportif.
Oui, mais ils vont pas faire. C'est ce que dit Pascal. Tu veux pas faire des miracles non plus selon les ambitions affichées par l'OM.
Encore une fois, je suis pas en train de dire qu'ils vont faire des miracles. Je suis en train de dire qu'ils vont petit à petit dans des échéances moyenne et plus à court terme.
Mais on est en train de parler de l'Olympique de Marseille.
Limoges, il y a un moment où c'est plus difficile et tu repars du début.
Tu repars
du début, tu reconstruis pierre par pierre, tu reconstruis quelque chose plutôt que toujours te lancer. Je lâche de l'argent tout le temps.
Il faut de la patience pour ça et c'est pas le maître mot non plus. On va écouter Sarah aussi un petit peu. Sarah, vas-y.
En fait, je lisais effectivement qu'il y avait, qu'il y a beaucoup de départs et beaucoup de joueurs qui peuvent être sur le départ, mais il y a aussi eu des retours de prêts, puisque l'OM a aussi beaucoup prêté, si je ne m'abuse, Pascal.
Mais s'il les prête, c'est qu'il y a un signe, une raison.
Oui, mais on est d'accord. Mais ce que je veux. Après. Ces retours-là, il va falloir compter dessus.
Après, tout dépend. Enfin, Valentin va nous confirmer, mais c'est aussi une masse salariale quand tu récupères des joueurs qui reviennent de prêt.
Ulysse Garcia, il faut assumer leur salaire. Contrats. Neil Mopé également est revenu. Certains ont des vieux contrats, mais Sarah a raison, c'est des sortes de.
Il y a 8 retours de prêt. J'ai envie de dire, il va falloir s'appuyer dessus. De toute manière, il y a une chose qui est sûre, c'est sur ces dernières années avec Longoria et Benatia, même si lui s'en défend dans la presse aujourd'hui. Ça a été une gare.
Sa parole est d'or.
Oui, peut-être. Ça a été un quai de gare. C'est-à-dire que ça passait, ça repartait. Et en fait, personne finalement n'a réussi à s'installer à l'OM. Donc aujourd'hui, pour reconstruire des fondations, il faut bien passer par quelque part. C'est pour ça que je dis un petit nom dans le sens où le choix est limité. Il va falloir s'appuyer sur des retours. On parle de jeunes générations, ces fameux Mino.
Une équipe de football, c'est un noyau dur de l'équipe.
Mais entre une année, tu dois les vendre. Je comprends bien, mais l'année dernière, où en fait, à peu près tous les deux mois, il y avait une crise à l'OM qui n'était pas nécessairement due aux résultats.
La saison dernière, si l'OM ne se saborde pas à sa tête, l'OM finit bien. Parce que
mais chaque année, il y a toujours quelque chose.
Sur une espèce de continuité, de la patience avec un coach de Zerbi.
Mais De Zerbi a été lâché par plusieurs joueurs, les dirigeants se sont sabordés. Oui,
la traîtrise est venue du sommet. Donc à partir de là, les joueurs, ben ils savent plus, une chatte n'aurait pas retrouvé ses petits en fin de saison à l'Olympique de Marseille. Ouais. Donc c'était illisible, y compris de l'intérieur.
Mais là, vous êtes en train de me dire qu'enlever toutes les forces vives,
ça sous-entend que l'OM va opérer un nouveau départ. Non, ils sont contraints et forcés d'agir ainsi parce que les finances l'obligent. Là, tu es contraint, tu es obligé. Et pour un club comme l'OM, parce que sachez une chose, vous l'avez certainement relevé, il y a 5 journées jusqu'à fin septembre. On va considérer que les joueurs qui vont arriver très tardivement à l'Olympique de Marseille vont mettre un bon mois à se fondre dans le collectif. Quand tu seras à la réception du Paris Saint-Germain le 20 septembre, si d'ici là les 4 matchs auparavant qui sont pas des parties faciles sont mal négociés,
Strasbourg, Monaco, PFC, Rennes.
Tu penses que le Vélodrome va être impatient, va être là à dire c'est bien un nouveau projet?
Une question importante et dont on a cessé de parler avec l'Olympique de Marseille, et on posera la question aux supporters marseillais, c'est à partir de jusqu'à quand tu vas laisser ce temps à Marseille pour construire ce nouveau projet dont on parle, déjà, ça n'existe pas le temps à Marseille.
Oui, mais pourquoi tu penses que ça va pas fonctionner?
Tu ne peux pas tout reconstruire en deux ou trois journées de championnat, c'est impossible.
J'ai juste un contre-exemple qui est assez récent et qui est un contre-exemple pour moi qui est juste parfait. L'année dernière, à la même période, quand on parlait de Lyon, on disait que c'est une équipe catastrophique, ils vendent tout.
Mais parce que le début de saison a été catastrophique.
Sauf qu'ils finissent comment?
Oui, mais il n'y a pas eu toute la saison.
Donc ma question, c'est comment ça finit? Est-ce que c'est important comment tu commences ou c'est important comment tu finis?
Mais c'est pas à moi qu'il faut le dire, c'est au supporter marseillais, à l'entourage. Un coach qui a fait ça à Lille,
il faut se rappeler qu'il a reconstruit, il a avancé pierre par pierre, c'est pas le même contexte, sauf que ça veut dire qu'il connaît le chemin, d'une part. De deux, on ne sait pas comment ça va finir. Vous êtes en train de me dire que sous prétexte que ça commence mal, ça va mal finir. Lyon est un contre-exemple parfait.
Non mais je suis pas certain que l'effectif de l'Olympique de Marseille, s'il est amputé de 15 joueurs, l'effectif actuel, je suis pas certain qu'il puisse rivaliser avec l'OL du début de saison
dernier. À Limoges, c'est pas la fin de la foire qu'on compte les bouses.
Ça c'est pas toi qui l'as inventé.
Mais non, c'est à Limoges. C'est pour ça que j'ai dit c'est à Limoges qu'on dit.
Il y a aussi une chose qu'on n'évoque pas, mais qu'on pourrait peut-être évoquer avec les supporters qui vont nous appeler. Et j'ai été lire pas mal de commentaires sur effectivement les départs. Et il y en a qui disent mais pour une fois, prenons des jeunes, les fameux minots, laissons-leur le temps. Est-ce que avec ces jeunes qui forcément sortent du centre de formation, est-ce qu'il va y avoir une attente différente, qui nous dit que
le centre de formation à l'OM est très faible. Et oui, Bruno Genesio l'a évoqué rapidement aussi, Valentin, hier. Il en parle, le centre de formation, en disant évidemment, quand on reconstruit un projet, on s'appuie dessus, mais il ne faut pas trop non plus leur demander.
Il a fait jouer des jeunes un petit peu en préparation, notamment à latéral. Mais on voit bien qu'effectivement, il y a peu de jeunes qui percent, entre guillemets. Le petit Robinho Vaz a été vendu à la Roma l'hiver dernier, ça avait bien marché. On a vendu également certains jeunes, je pense à Sassuolo par exemple, mais dans le 11 de départ de l'OM, c'est quand même au final assez rare d'avoir un gamin du centre, alors que même Paris, qui a fait venir des joueurs très connus, arrive à faire jouer des fois des jeunes. C'est moins le cas à l'OM.
Ouais, et Pascal, c'est aussi la pression qu'on met sur les épaules de ces jeunes joueurs.
Oui,
et
puis
c'est
le
pas
gap,
eux qui peuvent...
le gap est comment dire, est très important. Il est conséquent entre la formation, l'équipe réserve et la Ligue 1. Il y a un gap. Il faut un apprentissage, il faut du temps, il faut les lancer de manière homéopathique.
Puis, encore une fois, il y a le contexte marseillais aussi, Pascal.
En plus, c'est ce que j'allais dire. Il y a le contexte. texte marseillais. Et très franchement, quand tu perds Greenwood, c'est quoi comme signe quand tu es l'Olympique de Marseille que tu envoies? C'était un des meilleurs buteurs du championnat de France.
C'est le même signe que le PSG quand ils disent et on préfère qu'il ait envie de porter le maillot que pas le porter. Greenwood, il veut pas partir. Greenwood
veut partir. Oui, mais pourquoi il veut partir, Fred? C'est pas une raison.
Pourquoi? L'important, c'est qu'il a pas envie de porter ce maillot.
Pourquoi? C'est parce qu'il a vécu une saison dernière avec l'OM. Oui, mais voilà. Donc, tu ne peux pas ignorer le contexte marseillais aussi.
L'ancien contexte, justement, essayer de balayer ce contexte horrible où tout le monde veut partir et essayer de reconstruire quelque chose. Bah, je suis désolé, c'est plutôt positif.
On ne parle pas juste de la saison dernière, on parle du contexte général à l'Olympique de Marseille.
Si Greenwood veut partir, c'est à cause du contexte de l'année dernière.
Fred, quand tu compares le PSG et l'OM, franchement, tu...
Non, je ne les compare pas. Je ne les ai pas comparés. J'ai dit simplement
quand même. Paris Saint-Germain, c'est un vrai projet. L'OM, c'est quoi le projet?
C'est pas du tout ce que j'ai dit. J'ai pas comparé les deux. J'ai simplement dit que les deux avaient l'envie, qu'on ait envie de porter leur maillot. Je vois pas en quoi c'est comparé.
Mais surtout Greenwood, c'était la valeur marchande de l'OM qui a besoin de faire rentrer des sous. Et en plus, sur la vente, ils doivent redonner une partie à Manchester United, l'ancien club. Oui. Mais personne ne peut être vendu. Peut-être Balerdi allait plus de 30 millions d'euros. Marseille ne pouvait pas garder Greenwood s'il y avait cette somme.
Et Greenwood qui a marqué en plus pour son premier match avec Fenerbahçe en tour de qualification à la Ligue des Champions. Il est 9h26. Restez bien avec nous. Gardez vos arguments légers. Je vous sens là sur les dents là pour continuer de débattre sur l'Olympique de Marseille. On va continuer dans quelques instants. On vous attend, supporters marseillais, au 32-16. Appelez-nous pour venir nous dire ce que vous pensez de ce nouveau projet, si vous avez peur, si vous êtes inquiet pour cette nouvelle saison. 9h26, une courte pause et les GG du sport reviennent juste après ça.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Flora Moussi. 9h31, on est de retour dans les grandes gueules du sport sur RMC avec Fred Weiss, Pascal Duprat et Sarah Pitkowski. On vous attend aussi au 32-16 pour venir participer avec nous et débattre avec les GG si vous voulez venir vous frotter notamment à Fred Weiss et ses arguments aiguisés. La une des GG, ça continue avec cette question. Alors que le dégraissage de l'OM continue, êtes-vous inquiet pour la saison qui arrive? Hier au micro d'RMC, l'entraîneur marseillais Bruno Genesio a tenu à rassurer les supporters de l'OM. Oui, l'ambition sera au rendez-vous pour cette nouvelle saison à venir.
Je leur dis que je les comprends. Il faut qu'ils soient patients, même si je sais que c'est jamais simple dans notre métier. On est conscient que c'est pas l'idéal, entendre qu'un tel va partir. Quasiment chaque jour, c'est un moment différent. Je ne vais pas vous dire que c'est l'idéal pour un entraîneur ou pour un groupe ou pour des supporters. Ce serait mentir. Ce que j'ai envie de leur dire, c'est que nous, notre ambition, elle est d'avoir une équipe compétitive pour le championnat, parce qu'on est à Marseille, parce que le club se doit d'être ambitieux. Et quel que soit le groupe qu'on aura au 31 août, on aura des valeurs. Après, je suis pas voyant, je sais pas ce qui se passera au niveau des résultats dans la saison, mais en tout cas il y aura des valeurs et des valeurs qui correspondent, je pense, à l'esprit des supporters marseillais.
Tout est dit ou presque par l'entraîneur marseillais qui a bien compris l'inquiétude.
Il est bon, hein.
Il a tout dit finalement dans ce son qu'on vient d'écouter. Effectivement, il a compris tout ce qui se joue aujourd'hui dans l'environnement marseillais. Justement, on va demander l'avis des supporters. On a Hicham qui est avec nous ce matin au 32-16. Salut Hicham.
Salut l'équipe.
Salut.
Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, quel est ton avis, toi, sur ce dégraissage intensif du côté de l'OM? Est-ce que ça t'inquiète pour la saison à venir et les ambitions peut-être que peuvent avoir l'OM?
En fait, il faut redéfinir les ambitions, tout simplement. Là, au vu de la situation financière de l'OM, on a certains journalistes qui parlent de 150 millions d'euros d'ici juin 2027 à sortir. Faire rentrer dans les caisses du club. Ma courte ne veut plus mettre la main à la poche. Donc ça complique la situation. Genesio, je pense pas que quand il est arrivé au club, on lui donnait toutes ces informations-là, parce que ça fait quand même peur. Franchement, ça fait peur. Quand tu vois que
tu penses qu'il serait pas venu avec ces infos?
Là, si on fait la liste, Rouli, Gouiri, Pachao qui vont peut-être partir, Aguirre qui
sont pas
partis.
Hein.
Oui, Greenwood qui est parti. La liste est longue et en fait tout est à vendre à l'OM. C'est ça qui est triste, c'est que vraiment tout est à vendre. Donc
ce qui est sûr, c'est qu'il ne sait pas avec quelle équipe il va devoir mener cette nouvelle saison.
Exactement, mais le problème, il est plus profond que ça. Le problème, il est économique, il est structurel. Mmh. Il y a un journaliste qui s'appelle Romain Molina, enfin un insider, je sais pas comment vous l'appelez, qui a fait l'étalage des soucis financiers de l'OM et des absurdités de Longoria pendant ces années à la présidence. On voit aujourd'hui les effets que ça a sur les finances du club et sur... Aujourd'hui, vous vous rendez compte qu'on parle de joueurs à pas plus de 4 millions, 5 millions et un salaire un salary cap de 100 000 euros par mois. Vous attirez qui comme joueur ? Des prospects, des petits joueurs, des joueurs qui sont en devenir. Alors, peut-être que Genesio, c'est l'homme parfait pour ce genre de joueur. Le seul problème, c'est le fait d'être à Marseille, le fait d'être dans un club,
le contexte dont on parle évidemment,
exactement, et d'avoir, alors moi ce que je demande aux supporters, et je connais mes supporters, c'est de la patience. Et là le problème, il est que Marseille et patience, c'est antinomique. Maintenant, si on arrive et on dit la vérité aux supporters, comme fait très bien Genesio d'ailleurs, l'a rappelé un de vos collègues là sur le plateau, c'est qu'il parle bien et il dit vrai. S'il arrive en conférence de presse et il dit oui, on va titiller le PSG, on joue les trois premières places et que derrière c'est la catastrophe, bah oui.
Ouais, mais Hicham, honnêtement, toi supporter marseillaise, tu te retrouves 15e à la 10e journée en train de te dire on va jouer la relégation cette saison par exemple, tu vas bien le vivre?
Non, je veux dire très honnêtement, il y a aussi un autre paramètre qu'on ne prend pas en compte. Je suis désolé, mais c'est la faiblesse de notre championnat. Que vous le vouliez ou non.
C'est vrai. Ah, donc tu penses que ça peut suffire?
Marseille aura toujours un avantage sur certains du championnat.
Non, là, alors, je suis pas d'accord avec toi, Hicham.
15e, alors Pascal, moi 15e, j'y crois pas du tout. Moi je pense qu'avec un mec comme Genesio et avec une base solide défensive, parce qu'il reste quand même des joueurs, enfin je veux dire, il reste Wea, il reste Emerson.
Tu sais pas après ce qu'il va te rester au début de la saison.
On sait pas ce qu'on va récupérer non plus.
Non.
On sait pas ce qu'on va récupérer non plus, mais ce que je veux dire par là, c'est que la faiblesse de ce championnat là te permet d'espérer d'être dans les 7 premiers. Franchement, s'ils sont pas dans les 7 premiers, là c'est catastrophique.
Pascal, on touche à ta Ligue 1 là, hein. Il faut la défendre.
Mais il faut surtout que les Marseillais se disent, on est patient, on regarde ce qui se passe, on supporte le club, on leur donne de la force, en se disant que voilà, c'est une année de transition, les caisses sont vides, il n'y a pas le choix
pour les supporters en fait, les caisses sont vides, tu dois te dire que c'est une année de transition, t'as pas le choix de dire.
Je voudrais que la réponse de Pascal aussi sur le niveau de la Ligue 1.
C'est de juger du niveau de la Ligue 1, Hicham, je suis désolé, ce que tu dis c'est faux, la Ligue 1 c'est un très bon championnat, un des meilleurs championnats européens. Alors le ranking de Marseille, c'est la deuxième position par son budget, par son histoire, ils ont été doublés ces 10 dernières années par le PSG, mais normalement Marseille c'est top club en France.
Et le problème aujourd'hui c'est que
ce top club en France, il a été amendé même par l'UEFA à hauteur de 10 millions d'euros. Il a été sommé par la DNCG parce que je crois qu'il y a un trou de 100 briques ou quelque chose comme ça. Donc aujourd'hui l'OM est contraint de vendre pour ensuite espérer peut-être se renforcer. Et comme l'a très bien dit par contre Hicham, et comme tout le monde s'accorde à le dire, l'OM c'est un club où il y a la pression, où la patience ça n'existe pas. Donc quand on aura, je répète encore une fois, pour moi le juge de paix c'est le 20 septembre quand tu reçois le Paris Saint-Germain, alors que tu auras reçu Strasbourg et le PFC, que tu seras déplacé à Monaco et Rennes. On verra quel est le niveau de l'Olympique de Marseille à cette date.
Non, mais l'Olympique de Marseille n'est pas un concurrent au PSG.
Non, mais l'OM se doit
la vérité, la vraie vérité,
l'OM doit être en Ligue des Champions chaque année.
Pascal essaye d'expliquer que quand ils vont jouer contre le PSG, ils ont déjà joué des matchs avant. Et ça veut dire que
ça
peut être un match
qu'on pourra situer le niveau.
C'est ça, ça déterminera quelle ambition peut avoir l'OM cette saison.
Mais si, ça va juste remercier Hicham
d'avoir été avec nous.
Hicham, j'ai l'impression que c'est quand même quelqu'un qui est patient et j'aime beaucoup ça.
C'est ça. Et on va accueillir Sofiane qui est avec nous ce matin au 32-16, voir s'il est d'accord aussi avec cette patience-là. Salut Sofiane!
Salut, bonjour tout le monde.
Bonjour.
Est-ce que tu vas être un supporter marseillais patient cette saison ?
Eh bien, moi, je suis très patient et je suis même content de ce qui arrive. C'est malheureux, mais aujourd'hui, on ne pouvait pas continuer dans un contexte aussi particulier et aussi délicat où on est sous tension chaque week-end pour diverses raisons, que ça part du président jusqu'au directeur sportif et jusqu'à l'entraîneur où le choix était clairement ciblé de certains entraîneurs assez fous, si je peux me permettre l'expression. Et aujourd'hui, je ne suis pas du tout d'accord avec Pascal. Pourtant, je suis souvent d'accord avec lui.
Moi, je ne suis jamais, d'accord avec Pascal, je suis d'accord avec toi, Sofiane.
Aujourd'hui, je ne suis pas du tout d'accord avec toi, Pascal. Je me permets de te tutoyer, désolé.
Je t'en prie.
Pour la simple et bonne raison, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas avoir ton discours aussi négatif, dans le sens où ça continue à perpétuer la mauvaise ambiance qu'il y a autour du club. Et aujourd'hui, on se doit d'être tous unis que ça soit supporter de Marseille ou même amateur du football et supporter du football
français. Mais tu crois, Sofiane, à l'union justement des supporters marseillais tout au long de la saison, si jamais les résultats ne suivent pas, tu penses que c'est possible vraiment?
Mais je pense que c'est possible parce qu'on a vu les casseroles qui nous ont laissé l'ancien président et l'ancien directeur sportif. Alors chacun a ses torts dans cette histoire, mais on a vu les casseroles et on voit le club dans lequel on est. Et aujourd'hui, nous, je pense qu'on n'a pas envie de se retrouver dans la même situation que les Girondins de Bordeaux, qui le club n'existe quasi plus, ou même l'Olympique Lyonnais la saison dernière, qui était quasi mort aussi. Et aujourd'hui, nous, on n'a pas envie de se retrouver.
Là, je te rejoins, Sofiane, mais
et
moi,
je pense qu'on est assez intelligent. Et je pense qu'on a assez intelligent. Et je rajouterais même, je reviens sur ton discours sur les joueurs prêtés qui reviennent cette saison. Je suis tout à fait d'accord avec toi que les joueurs prêtés qui reviennent, s'ils sont partis, c'est qu'il y a une raison. Mais la raison, c'est aussi que le coach ne savait pas forcément les faire jouer ou n'en voulait pas. Aujourd'hui, je prends un profil comme Angel Gomez. Je ne sais pas s'il restera parce que ça y a une certaine valeur marchande. Mais aujourd'hui, un profil comme Angel Gomez qui a éclaboussé son talent à Lille et tous les suiveurs de football pouvaient en parler. Il a éclaboussé sous Bruno Genesio. Aujourd'hui, je ne vois pas pourquoi il n'éclabousserait pas de son talent, sachant que c'est les places du milieu.
Il va peut-être éclabousser de son talent un autre ailleurs. Club et un autre championnat. C'est ça le problème.
Mais pourquoi pas Marseille sous Bruno Genesio?
Si jamais il y a une offre, il partira. Hein. C'est le problème.
D'accord. Mais à un moment donné, si tous les joueurs, et quand vous regardez les standings des clubs où lesquels les joueurs signent, je parle de Greenwood qui est parti à Fenerbahçe, je parle de Naïef Aguerd qui va signer à la Real Sociedad, et j'en rajoute Traoré qui est parti à... J'enlève Aubameyang parce qu'il est très âgé, mais on rajoute Traoré qui est parti au Genoa. Si aujourd'hui ces joueurs-là signent dans un club qui a un standing quand même, je pense, inférieur à l'Olympique de Marseille, c'est aussi parce que quand ils sont venus à Marseille, ils n'ont pas montré de quoi ils étaient valables.
C'est pas la première raison. Pour ma part, la première raison, c'est que les clubs standing de l'OM qui sont intéressés, ils songent à patienter avec l'OM. Aujourd'hui, comme l'OM est en difficulté, tous les clubs acquéreurs ou potentiellement acquéreurs de joueurs de l'OM patientent jusqu'au dernier moment pour faire baisser les prix. Donc c'est d'autres clubs. Faire les bâchés, c'est du pain béni, Greenwood, pour ouais. C'est pour cette raison qu'ils se sont alignés sur les montants.
C'est sûr que l'OM
va être en situation de panic buy là dans une dizaine de jours.
Ah, qui Marseille? Bien sûr. Il faut. Je crois que je vais pas dire une bêtise. Je sais pas si les chiffres que j'ai lus sont justes, mais je crois qu'on parle de 150 millions d'euros. Donc il faut vendre pour 150 millions d'euros aujourd'hui. Ils sont encore loin du compte.
On n'y est pas.
Donc ça veut dire que Aguerd va partir. Rulli Medina, c'est presque fait. Schberg, Angel Gomez, Balerdi, Peixão va certainement partir. Il intéresse des clubs anglais. Goury va peut-être partir à Côme. Et il reste quoi après? C'est ça la question.
Ouais. Il reste un coach, il reste un directeur sportif.
Mais
Flo Germain, notre correspondant à Marseille, parlait de faire rentrer au moins 80 millions d'euros d'ici juin 2027. Donc ça laisse deux mercato, on va dire. Après, l'idée, c'est évidemment de faire des bénéfices, des plus-values, baisser les salaires. Et donc, on l'a dit, Franck McCourt a aussi comblé des pertes en investissant 120 millions d'euros depuis le début de l'année civile.
Merci Valentin, merci à Sofiane qui nous a appelé au 32-16. Il y avait beaucoup de supporters marseillais qui voulaient réagir ce matin. On ne peut pas prendre tout le monde, mais continuez évidemment de nous appeler. Ça fait toujours réagir quand on parle de l'Olympique de Marseille. 9h43 sur RMC. Une pause et puis on va zapper juste après dans les GG du sport.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Flora Moussi.
Il est 9h45 sur RMC, les grandes gueules du sport, toujours au rendez-vous tous les week-ends de 9h à midi avec Sarah Pitkowski, Pascal Duprat et Fred Weiss. On vous rappelle WhatsApp pour nous laisser vos petits messages, 0612 424 424. Il y a plein de messages qui nous parviennent. Pas toujours sympathique, Frédéric. Tu suscites les passions.
Mais c'est hyper intéressant, je trouve.
Effectivement. C'est aussi le but de ces GG d'avoir des avis aussi divergents. Allez, il est 9h45, il est l'heure de zapper un petit peu.
RMC. Le zapping des grandes gueules du sport.
On parlait de l'Olympique de Marseille. Le Paris Saint-Germain, lui, continue sa pré-saison avec un match amical de prestige aujourd'hui face à Manchester United et avec peut-être le retour de quelques internationaux. On s'en fout ou on s'en fout pas, Fred?
Désolé, je m'en fous.
Sarah?
Ouais, là, non, je m'en fous.
Pascal?
Oh, je m'en fous pas.
Très bien. Les joueurs de Luis Enrique attendus aujourd'hui après leur défaite un peu plus tôt cette semaine, 3-0 face à Majorque pour leur premier match de préparation. Valentin, t'es toujours là. Certains joueurs importants seront quand même de retour pour ce match face à Manchester United.
Tout à fait. On attend le retour dans le groupe des Portugais, Vitinha, João Neves et Nuno Mendes, ainsi que du Brésilien Marquinhos. Ils ont repris l'entraînement il y a 5 jours. Ils devraient avoir du temps de jeu face aux Anglais parce que ces garçons n'avaient pas été convoqués lors de la défaite 3-0 à Majorque mercredi. C'était un petit peu trop tôt pour eux, donc ils vont rejoindre les Safonov, Vaz, Kelia ou encore Pacho qui eux avaient déjà foulé la pelouse. Match important dans l'esprit du staff, ça se passe en Suède à Göteborg, match important parce que c'est vu comme le test, le grand test avant la Super Coupe d'Europe, mercredi face à Aston Villa. On aura aussi toujours dans le groupe des jeunes qui sont attendus dans cet effectif parisien, et il y avait un petit doute sur Akliouch, ce serait surprenant de le voir, mais c'est pas impossible déjà puisqu'il a fait la séance hier, la nouvelle recrue du Paris Saint-Germain. Et puis pour les autres, on attend le début de semaine pour revoir à l'entraînement les Français Dembélé, Doué, Barcola, Zaïre Emery, Digne, Lucas Hernandez, ainsi que le champion du monde Ruiz et le Marocain Hakimi. Donc ils auront 2-3 jours grand maximum avant la Super Coupe d'Europe. Mais certains veulent vraiment jouer et donc seront peut-être disponibles pour ce match et ce premier trophée.
Ouais, Pascal, ça arrive très très vite ce premier trophée de la saison pour le PSG, Manchester United, équipe anglaise, Aston Villa, équipe anglaise, on a compris d'ailleurs Manchester United qui a déjà repris sa saison depuis un moment aussi avec pas mal de matchs amicaux, donc ça va être aussi un petit test et de histoire de voir où se situe ce PSG avant ce match important face à Aston Villa.
Bon, comme Valentin l'a très bien dit, c'est mercredi que la compétition commence réellement. Mais cela dit, on peut pas, moi en tout cas personnellement, je peux pas m'en foutre quand c'est le PSG qui revient à la compétition ou qui s'en approche, et puis surtout quand une équipe française joue contre Man U. Donc je suis très heureux de voir
pas
que
pas forcément des bons souvenirs pour le Paris Saint-Germain Manchester United.
Pas toujours, effectivement. Non, la bonne nouvelle c'est que tout le monde revient, ça c'était établi progressivement, et que le Paris Saint-Germain devrait présenter une équipe à peu près compétitive mercredi contre Aston Villa. Donc ça, c'est important.
Et on verra évidemment ce que ça donne sur RMC. On suivra ce match mercredi soir donc face à Aston Villa. Merci beaucoup Valentin d'avoir été notre monsieur foot matin. Les suites de l'affaire de la FIFA et Gianni Infantino de plus en plus sur un siège éjectable. On s'en fout ou on s'en fout pas, Sarah?
Je m'en fous pas.
Pascal?
Je m'en fous pas.
Fred?
Oui, je ne m'en fous pas.
Personne s'en fout. On a beaucoup parlé la semaine dernière dans les GG du sport. On va faire le point justement sur les dernières infos avec Nicolas Pelletier. Salut Nico.
Salut Flora, salut à tous.
Aye. La pression, elle est toujours très forte, évidemment, sur les épaules du patron de la FIFA.
Et la menace est toujours très forte sur les épaules de Gianni Infantino, qui a présenté officiellement ses excuses cette semaine dans une lettre qu'il a rédigée depuis Rabat au Maroc, où il avait convoqué en urgence sa garde rapprochée, le président de la FIFA qui passe ses journées à compter ses soutiens qui se réduisent de jour en jour. Mais cette lettre ne met pas fin aux spéculations sur son avenir, et surtout, même avec ses excuses, l'UEFA a confirmé qu'elle était prête à boycotter la prochaine Coupe du Monde en 2030. Tant que Gianni Infantino sera en poste. Plus surprenant, cette fois, pour la première fois, la Confédération sud-américaine, très proche de Gianni Infantino, a publié un long communiqué pour dénoncer, je cite, « des décisions unilatérales répétées de la FIFA » et d'ajouter « le football passe avant tout ». La Confédération sud-américaine, qui représente 10 voix pour les élections, menace même de ne pas renouveler son soutien à Gianni Infantino lors de la prochaine élection à la présidence de la FIFA en mars 2027. Seule petite éclaircie pour Gianni Infantino, ce n'est pas une surprise, le soutien sans faille de la Confédération africaine de football. Après un comité exécutif jeudi soir au Caire en Égypte, l'Afrique a décidé de soutenir à l'unanimité le patron de la FIFA et son avenir pourrait donc se jouer dès la semaine prochaine. La fronde devrait s'organiser lors d'une grande réunion de l'UEFA à l'instance européenne en Autriche. Son président Alexander Seferin et le grand patron du PSG Nasser Al-Khelaifi pourraient s'accorder pour soutenir Victor Montagliani, qui est le patron de la Confédération nord-américaine. Il aurait alors la lourde tâche de partir au combat contre Gianni Infantino dans l'optique des élections de mars 2027 à la présidence de la FIFA.
Merci beaucoup Nico. Fred, tu penses qu'il va réussir réussir à s'accrocher à ce siège, Gianni Infantino?
Franchement, s'il réussit là, il est vraiment exceptionnel.
Au-delà de rester en poste, il y a la réélection aussi qui arrive au mois de mars.
Il y a resté en poste, il y a la réélection. Je me dis que c'est pas possible. Tout le monde est contre lui. Alors effectivement, il y a l'Afrique qui est plutôt de son côté, mais le reste est plutôt contre lui. Il fait n'importe quoi. Il a pris des décisions de dictateur. Il est obligé de s'excuser. Il est obligé de faire des lettres. Il est obligé de... Je suis pas sûr
qu'il fasse n'importe quoi, Fred.
Au départ, il fait n'importe quoi en proposant des choses qui sont complètement folles.
La séquence actuelle, il faut la reporter en mars 2027 et on verra.
Mais ce que je veux dire, c'est que c'est très inquiétant, on verra s'il n'est pas soutenu.
Y compris par l'UEFA.
Mais je suis d'accord, mais c'est pas quand même très inquiétant de se dire que d'un côté on a l'UEFA qui a l'air d'être solide, qui a l'air bien sur ses appuis, et peut-être effectivement qu'en 2027 ils vont soutenir.
Attention, il a six mois, gloire et football quoi. Oui, non, mais il a six mois pour redorer son image ou pour retrouver. Il a besoin de 106 voix sur 211 pour être réélu.
En tout cas, cette
communication de vouloir ouvrir aux investisseurs privés, elle est peut-être arrivée trop tôt, mais elle se réfléchit quand même. Elle est arrivée trop tôt parce qu'en fait, les chiffres des recettes de cette Coupe du Monde aux États-Unis sont tellement invraisemblables que effectivement, ça donne des envies à tout le monde. Il faut savoir qu'Infantino, c'est lui qui a ouvert à plus de pays cette Coupe du Monde. Il en veut 64. Donc, qui dit 64, donc c'est des voix aussi dans sa poche. Donc, il faut faire attention en politique sportive, c'est-à-dire même quelqu'un en danger mais qui est au pouvoir, a toujours une grande, grande longueur d'avance pour ceux qui se lancent dans la bataille. Après, ce que j'ai lu, et ce qui était l'erreur, la grosse erreur d'Infantino, c'est qu'en fait, j'ai cru comprendre qu'il s'est rendu compte des salaires que touchaient les fameux commissionneurs américains dans les ligues fermées américaines. Et là, il s'est dit, le mien, il est à des années-lumière.
Il s'est précipité
sur quelque chose en pensant peut-être que lui aussi, avec des investisseurs privés, surtout des bras armés de Trump, pourrait lui ramener des millions de dollars qu'il a.
S'il s'en sort avec cette communication-là, il est quand même extrêmement fort.
Fred, toi qui es friand et qui nous le dis tout le temps, et tu as raison à me convertir au basket US. Mais c'est bien l'argent qui prédomine. Infantino, son rôle, c'était aussi de faire en sorte que le football, premier sport.
Il demande à des investisseurs de rentrer dans un business qui est déjà extrêmement rentable. Tu fais rentrer des investisseurs.
Mais ils en veulent toujours plus.
Oui, mais en fait, tu n'auras
les
pas
petits
plus
pays
d'argent.
En veulent toujours
tu n'auras
plus.
Pas plus d'argent. Tu auras juste plus de pression soumise justement au fait qu'il y ait des investisseurs. Quand ils arrivent, normalement, c'est pour combler des dettes ou pour faire des investissements. Sauf qu'il n'y en a pas besoin. Tu viens de le dire, on vient de faire des sommes records à ce mondial. Donc ça n'a aucun sens économique. C'est juste un sens, j'ai envie de me placer.
On va zapper ce sujet qui, visiblement, continue de faire beaucoup parler, alors qu'on a fait beaucoup, effectivement, la semaine dernière sur Gianni Infantino. Arthur Fils sera sur les cours la nuit prochaine en 8e de finale du Masters 1000 de Montréal. On s'en fout ou on s'en fout pas, Pascal?
Je m'en fous pas, mais je vais laisser parler Sarah.
Ben non, je m'en fous pas.
Fred?
Je pense pareil que Pascal.
Ouais. Très bien. Eric Salio est avec nous pour nous en parler. Salut Eric.
Salut les GG.
Salut.
Bonjour.
Je parle d'Arthur Fils, mais il y aura même deux Français sur les cours, puisqu'on retrouvera aussi Arthur Hinderknecht.
Oui, non, c'est un Masters 1000, donc il y a beaucoup de points à prendre. Et c'est pour ça qu'on attend avec beaucoup d'impatience le match d'Arthur Fils contre Cameron Norrie, parce qu'il a un objectif de fin d'année, c'est d'aller au Masters. Bon, vous avez vu le tableau à Montréal, il n'y a plus qu'un seul top 10, donc il y a vraiment un gros coup à jouer au Canada. Mais c'est pas simple, parce qu'on a toujours la trouille que son corps le lâche. Mais pour l'instant, ça tient, il est au niveau. Et s'il est au niveau du printemps dernier, il a évidemment toutes ses chances d'aller en quart de finale. Pour Arthur Hinderknecht, ce sera contre Nakashima. Mais oui, il y a une ouverture. Donc il faut la saisir parce que Il y a beaucoup de points à prendre. 1000 points au vainqueur, c'est pas rien et ça peut lui donner un sacré coup de main pour le Master de Turin.
Ça, c'est la porte ouverte, là, effectivement. Le tableau est dégagé, en tout cas, pour Arthur.
Mais parce que ce premier Master 1000 de la tournée américaine, eh bien, il n'attire pas les tout meilleurs parce qu'il arrive très tôt, surtout pour les Européens. Donc, il y a des sacrées cartes à jouer pour aller chercher des points. C'était Shenton qui avait gagné l'année dernière, mais l'année d'avant, c'était Popirin, un Australien. Ça vous dit pas spécialement quelque chose quand on n'est pas un aficionado du tennis et quand on suit pas vraiment de manière pointue le circuit. C'est dire que ce tournoi à Montréal, eh bien, il y a des points à prendre, mais il y a surtout des sacrées ouvertures. Donc que ça soit pour Arthur Hinderknecht ou pour Arthur Fils, oui, c'est une belle opportunité et s'il pouvait la prendre, pour toutes les raisons que vient de dire Eric, ce serait fantastique, mais il faut faire attention, hein. Il y a un petit Joao Fonseca qui est en train de monter en puissance là, qu'il va falloir surveiller.
Et on rappelle aussi que Terence Atman a été éliminé en revanche cette nuit, lui qui avait réalisé des belles performances à Montréal jusque
et
là.
Et il a surtout une finale à Cincinnati à défendre la semaine prochaine, l'autre Master 1000.
Il y aura des points à défendre, effectivement. On reparlera justement du niveau du tennis mondial masculin aujourd'hui, de son attractivité surtout. Ce sera à 11h30 tout à l'heure sur le buzzer. Merci beaucoup, Eric, d'avoir été avec nous. À tout à l'heure, peut-être. 9h57 sur RMC, les grandes gueules du sport reviennent tout de suite avec évidemment le vestiaire à suivre tout à l'heure. Le ring qui arrive, on va parler du top 14 avec l'arrivée de Thomas Ramos au Racing 92 en 2027 qui pourrait un petit peu bousculer tout ça. Restez bien avec nous, les grandes gueules du sport reviennent tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi,
les grandes gueules du sport.